Le taoïsme. Il me reste, pour compléter cet aperçu rapide des idées chinoises relatives à la loi directrice de l'univers, à vous dire quelques mots de ce qu'a été cette conception dans la grande école chinoise du taoïsme. La doctrine que représente le Tao Te Ching témoigne d'une puissance de pensée et de conception telle que je ne puis me résoudre à croire qu'elle ait été l'œuvre d'un seul homme, d'un seul philosophe, dans un pays où le travail de nombreuses générations antérieures ne lui aurait pas préparé toutes les voies. J'admets comme une certitude l'existence du progrès, mais je sais que le progrès s'accomplit lentement et avec le concours indispensable d'un nombre considérable de collaborateurs dévoués, tenaces et intelligents. Lorsque je songe que Lao Tse a vécu 6 siècles avant notre ère, et dans un milieu en apparence aussi peu favorable que le pays des anciens Chinois, j'éprouve un certain trouble pour indiquer la place réelle qu'il convient de lui affecter dans le travail évolutif de l'idée religieuse chez les riverains du fleuve jaune. Avant l'apparition de Confucius, à la même époque qui fut celle de Sakyamuni et de Pythagore, semble une résultante logique des faits qu'on nous rapporte avec les siècles antérieurs aux siens, autant la présence dans cette même région d'un génie aussi pénétrant et aussi original que le fut Lao Tse me paraît difficile à comprendre avec les données que nous possédons jusqu'à présent sur l'état évolutif de la Chine antique. J'avais, en conséquence de cette considération, supposé a priori, durant la première période de mes études sur le taoïsme, l'existence en Chine d'une philosophie absolument distincte de l'enseignement moral et socialiste de Confucius, philosophie qui aurait vu le jour aux époques dites préhistoriques de la civilisation chinoise. De patientes recherches dans les textes originaux et dans les écrits de plusieurs sinologues autorisés ont eu pour résultat de me convaincre que mon hypothèse relative aux origines du Céleste Empire répondait à une réalité historique. Je n'ai donc plus aucune hésitation à soutenir désormais que la philosophie taoïste a été la conséquence d'un labeur intellectuel dont les premières manifestations se perdent dans la nuit des temps, ou ont été du moins fort antérieures au VIe siècle avant notre ère. De longs développements et l'énumération d'une foule de petits faits qui ne peuvent guère intéresser que les spécialistes seraient nécessaires pour établir la doctrine que je professe aujourd'hui sur les débuts du taoïsme et sur les efforts de pensée qu'il a fallu accomplir en Chine pour rendre possible l'apparition dans ce pays d'un homme de la trempe de Lao Tse. On me pardonnera de ne pas entreprendre un tel déploiement d'érudition dans une conférence où je me suis proposé en somme qu'un seul but, celui de démontrer que non seulement les Chinois croyaient en Dieu, mais en plus qu'ils avaient énoncé sur l'existence de Dieu des idées d'une remarquable portée et dignes à tous égards de la respectueuse sollicitude des chercheurs du monde contemporain. Je ne m'occuperai donc point ici des précurseurs de Lao Tse sur lesquels on commence seulement à réunir quelques indices qui ont besoin d'être examinés de très près et discutés avec connaissance de cause, avant qu'on soit en droit d'en faire un usage sérieux pour l'histoire de la philosophie chinoise. Je me bornerai à parler du taoïsme tel qu'il résulte de l'étude de son livre canonique, le Tao Te Ching. Cet ouvrage, d'une valeur considérable, mais dont l'intelligence présente d'énormes difficultés, a été déjà l'objet de plusieurs traductions en langues européennes. Toutefois, si le proverbe « traductore traditore » est souvent vrai, je n'hésite pas à déclarer qu'il l'est d'une façon tout à fait exceptionnelle lorsqu'on l'applique à l'œuvre de Lao Tse. Malgré le profond respect que je professe pour les connaissances sinologiques de mon ancien maître Stanislas Julien, l'un des deux premiers traducteurs du Tao Te Ching, j'ai le devoir de dire qu'il n'a pas compris les parties essentielles de la grande œuvre de l'illustre contemporain de Confucius, de cet homme extraordinaire qu'un savant orientaliste anglais, M. Chalmers, n'a pas hésité à placer au premier rang des philosophes de la Chine antique. Pothier, le concurrent malheureux de Stanislas Julien, qui avait traduit quelques années avant celui-ci le livre fondamental du taoïsme, connaissait insuffisamment la langue chinoise. Mais il n'était pas à beaucoup près un homme sans talent, et en maintes circonstances, il suppléa par son esprit éclairé à l'insuffisance de son savoir au point de vue philologique. S'il n'a pas compris, lui non plus, dans son ensemble, l'œuvre de Lao Tse, il a su du moins lui donner une apparence acceptable en certains endroits dont l'énoncé semble révoltant dans la version de son savant rival. De graves divergences ont déjà été formulées sur les essais de ces deux érudits. Toutefois, la valeur exceptionnelle du texte antique qu'ils avaient eu l'intention de faire connaître au monde européen et qui est encore aujourd'hui assez médiocrement connu, mérite que ces critiques soient reprises en sous-œuvre et même longtemps discutées avant qu'une traduction acceptable puisse enfin être mise au jour. Un orientaliste de mérite, Albert Rémusat, maître de Stanislas Julien, s'était lui aussi occupé du Tao Te Ching, sur lequel les travaux des anciens missionnaires de Pékin avaient appelé tout particulièrement son attention. Faute de pouvoir lire et comprendre les nombreux commentaires composés d'âge en âge par les Chinois pour faciliter l'intelligence de ce livre, il s'était trouvé hors d'état d'y découvrir les importantes idées qu'il enferme. Il se livra donc à des observations enfantines sur quelques passages que l'on avait cru découvrir des rapports entre l'enseignement taoïste et la religion juive. Parmi ces observations, l'une d'elles provoqua avec raison les remontrances de son élève Stanislas Julien, qui en fit justice dans la préface de son livre. Je veux parler de l'identification du nom de Jéhovah avec trois particules contenues dans un des chapitres du King ou texte traditionnel de Lao Tse. On me pardonnera, je l'espère, si j'ai cru utile de donner ici ces explications presque exclusivement bibliographiques, avant de parler des passages du Tao Te Ching qui nous permettent de discuter la question de savoir si les adeptes de la doctrine du Tao doivent être considérés comme des athées ou bien comme des déistes. Dans ce dernier cas, dont j'ai la prétention d'établir l'exactitude, il y aura lieu de déterminer à quel genre de déiste appartenait Lao Tse. J'insiste sur cette déclaration, car je tiens essentiellement à soutenir que les prétendus sectateurs de ce puissant génie n'ont plus que quelques rares rapports logomachiques avec les enseignements de celui qu'ils appelaient leur maître. C'est pour ce motif que j'ai jugé indispensable de faire usage du mot « taoséisme » pour désigner la religion de ces redernier et de ne pas la confondre avec la philosophie originale et si remarquable du Tao, que je nomme taoïsme. La question que je désire discuter dépend du sens qu'il convient d'attribuer au Tao, expression fondamentale sur laquelle repose la doctrine de Lao Tse. J'ai consacré à l'examen de ce mot un chapitre entier d'un ouvrage que j'ai publié sur cette antique doctrine de la race jaune. Je résumerai mes recherches aussi brièvement que possible pour arriver aux conclusions que j'ai en vue, sans abuser outre mesure de votre bienveillante attention. Si l'on cherche le sens de ce mot Tao dans les dictionnaires chinois composés pour l'usage des Européens, on trouve qu'il en a plusieurs et de fort distincts, ce qui rend l'interprétation difficile lorsqu'il s'agit de son emploi dans le langage philosophique. Les principaux de ces sens, ou du moins les plus habituels, sont route, parler et doctrine. Stanislas Julien a cru devoir choisir celui de voix. Gautier s'est beaucoup plus rapproché de la vérité en employant celui de raison primordiale ou principe suprême. La signification en langue vulgaire de parler l'a fait identifier par quelques auteurs au logos des néoplatoniciens et celle de lumière à la bodhi ou connaissance absolue des bouddhistes. Plusieurs orientalistes, et je suis du nombre, n'ont pas hésité à le rendre par Dieu, dans l'espoir que cette traduction serait, tout bien calculée, moins obscure que celle qui résulterait de longs considérants aussi difficiles à comprendre que le mot Dieu lui-même. On doit néanmoins tenir compte, mais avec de grandes réserves, de l'explication sur laquelle le Tao serait la raison éternelle, antérieure à Dieu, et sans laquelle Dieu n'aurait jamais pu exister. J'aurai sans doute des remarques intéressantes à vous faire sur cette singulière explication qui révoltera non sans motif plus d'un penseur. Mais ces remarques m'entraîneraient trop loin et je dois revenir, sans plus de parenthèses, à la formule de l'idée de Dieu. Suivant la doctrine de Lao Tse, telle qu'elle s'est présentée à mon esprit, après plusieurs années d'études du Tao Te Ching et des travaux de ses commentateurs les plus autorisés. Faute de pouvoir vous présenter aujourd'hui mes idées avec tous les développements voulus, je me bornerai à vous dire que je ne puis pas admettre que le Tao de Lao Tse soit quelque chose d'autre que Dieu et qui ait précédé la manifestation de la divinité. Seulement, il s'applique à la conception d'un Dieu d'une nature non seulement immatérielle, mais indéfinissable. Lao Tse s'exprime à cet égard de la façon la plus formelle. Le Dieu qu'on peut définir, dit-il, n'est pas le Dieu absolu. En chinois, Tao Kao Tao Fei Chen Yong Tao. En d'autres termes, nous ne pouvons avoir qu'une simple intuition du Dieu véritable. L'enseignement bouddhique des écoles les plus avancées, en adoptant la même manière de voir au sujet de Dieu, ajoute toutefois que cette intuition peut être de plus en plus complète, de plus en plus suggestive, suivant la mesure dans laquelle nous parvenons, par nos efforts, à anéantir en nous le sentiment égoïste, le sentiment de notre personnalité, pour nous associer et nous confondre avec le grand tout. Sans la crainte d'abuser outre mesure de votre bienveillante attention, je vous aurais entretenu d'un autre terme fondamental du taoïsme, à savoir de la Té, dont le nom figure dans le titre du Tao Te Ching de Lao Tse, titre que Stanislas Julien, comme je l'ai dit, a rendu par le livre de la voix et de la vertu, interprétation que je me refuse absolument à accepter. Je vous ai fourni tout à l'heure quelques explications sommaires au sujet du mot Tao. Le mot King, qu'on traduit d'habitude par livre sacré, signifie simplement un écrit traditionnel. Quant au mot Té, il veut bien dire vertu dans le langage ordinaire, mais dans celui de la philosophie taoïste, il a une bien autre portée. Il y exprime l'élément muable qui est la seconde caractéristique de Dieu, dont la première est l'immuabilité. En d'autres termes, il désigne l'activité sélective et le devenir. C'est seulement, je crois, en raisonnant de la sorte et nullement avec les arguments dont ont fait usage à ce propos plusieurs orientalistes que nous pouvons établir l'existence en Chine dès le VIe siècle avant notre ère de la notion théologique trinitaire qui nous représente Dieu tout à la fois créateur de l'univers et en voie de se créer lui-même par l'appoint indispensable de l'universalité de ses créatures. Dans une autre occasion, je me propose de démontrer la valeur tout à fait exceptionnelle de cette idée qui se retrouve dans l'Antiquité occidentale non seulement chez les Indiens, la Trimurti, mais encore chez d'autres peuples, notamment chez les Japonais, au sein de leur Shintoïsme primitif. Malgré l'admirable puissance de sa théorie philosophique, Lao Tse ne devait obtenir d'écho dans les masses ignorantes que lorsque sa doctrine aurait été matérialisée de fond en comble et abâtardie de façon à devenir intelligible pour la foule inculte et à satisfaire ses instincts grossiers. À ce point de vue, il a eu la destinée de tous les grands instruments tituteurs religieux. Rien dans la pratique n'a survécu de son œuvre, qu'une grossière et mercantile contrefaçon de son enseignement. N'hésitons pas à le reconnaître avec tristesse. Tel est le sort des penseurs qui espèrent trop de la pauvre humanité ou qui, du moins, devance avec trop de génie le travail lent et sans cesse interrompu de son émancipation. Du moment où la souffrance a été l'apanage de tout ce qui vit, il était inévitable que l'homme qui souffre ait la velléité de croire à un être de sa propre nature, mais plus puissant que lui, auquel il puisse demander de mettre un terme à ses maux, et parfois même de lui accorder des jouissances ici-bas. Quel que soit l'état de son esprit, il ne peut s'abstenir d'invoquer pour son service et ses besoins un ou plusieurs magots fabriqués à son image. De grands progrès intellectuels devront être accomplis avant qu'on puisse retirer aux malheureux la douce illusion de la prière et le droit de pousser le cri qui échappe sans cesse, aussi bien aux savants qu'aux ignorants, aux forts et aux faibles d'esprit. Ah, mon Dieu ! Au début de cette conférence, j'ai signalé les graves inconvénients qui résultent de l'emploi insuffisamment réfléchi du mot « athée » pour désigner un individu, et bien plus encore pour qualifier une rare ou une fraction quelconque de l'humanité. Il n'est pas moins fâcheux de soutenir qu'un peuple est supérieur ou inférieur parce qu'on l'a qualifié plus ou moins à la légère de monothéiste, de polythéiste, de panthéiste, de fétichiste ou d'idolâtre. Le monothéisme est parfois la conséquence d'un puissant et splendide travail intellectuel. Parfois aussi, il n'est rien de plus que la résultante d'un défaut d'imagination. Le déisme est sans aucun doute une très haute conception de l'homme supérieur, mais alors seulement qu'il répond à la culture d'une idée intuitive dont chaque être a le devoir de provoquer la naissance dans son organisation intime. Si le temps ne m'avait pas manqué pour soutenir devant vous cette manière de voir, je vous aurais entretenu de l'état déplorablement rudimentaire de l'idée déiste chez de nombreuses populations du globe. Je vous aurais parlé notamment des Coréens qui sculptent à plaisir de petits dieux grotesques sur des bûches de bois et qui les entourent de fleurs et de parfums lorsque le hasard leur fait croire qu'ils leur doivent les faveurs dont ils ont adressé la demande en prière. En revanche, lorsque par malheur ces petits dieux de bois ne leur sont pas propices, ils se font une fête avec leurs amis de les démolir à coups de pierre. On ne peut cependant pas dire que ces Coréens sont des athées, puisqu'ils rendent un culte à une foule de divinités de leur invention. Mais il me répugne de les compter parmi les déistes, pour lesquels toutes les créatures honnêtes et intelligentes doivent professer des sentiments de haute estime et d'inépuisable admiration. Il est temps de m'arrêter. Je me crois autorisé, en terminant, à soutenir que la civilisation chinoise ne professe pas plus d'athéisme qu'aucune autre des grandes civilisations du monde, et que le déisme de la Chine, dès la haute antiquité, a même atteint à une hauteur de conception que notre orgueilleuse Europe ne peut guère prétendre avoir sérieusement dépassée. C'est là ce que je tenais surtout à vous dire dans cette petite improvisation.